Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les autorités italiennes pointaient du doigt au surlendemain d'une nouvelle tragédie en mer Méditerranée. Au moins 64 candidats à l'exil sont morts dans le naufrage d'une embarcation au large de l'Italie. Notre invité sera Flavio Di Giacomo, porte-parole en Italie de l'Organisation internationale pour les migrations. La dégradation de la situation sécuritaire en Israël et dans les territoires palestiniens. La France juge inacceptable les violences contre des civils palestiniens dimanche en Cisjordanie occupée. Réaction du Quai d'Orsay après les violences commises par des colons israéliens. Nous écouterons Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. La Banque mondiale estime le coût des dégâts provoqués par le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février à 34 milliards de dollars. Cela représente 4% du produit intérieur brut en 2021. Emmanuel Macron appelle à bâtir un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique, un discours prononcé en amont d'une tournée en Afrique centrale. Le président algérien a accordé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger. Jean-Paul Vesco a été nommé à ce poste en décembre 2021. La réforme des retraites est arrivée ce mardi au Sénat pour un premier examen en commission. La majorité de droite est favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans. Noël Le Graët démissionne de la présidence de la Fédération française de football. Il était en retrait depuis le 11 janvier dernier. Des voix s'élèvent en Italie pour dénoncer l'inaction des secours et des autorités après le naufrage d'une embarcation de migrants dimanche en Méditerranée. Au moins 64 personnes sont mortes. L'embarcation s'est brisée sur des rochers à quelques mètres de la côte italienne. Suite à cette tragédie, entretien avec Flavio Di Giacomo, porte-parole en Italie de l'Organisation internationale pour les migrations.
Très difficile de dire si cette catastrophe pourrait être évitée, mais il faut aussi dire que cette tragédie montre à quel point le système de patrouillage en mer dans la Méditerranée centrale reste insuffisant. C'est très important de dire, car voilà, il y a déjà 280 personnes qui ont perdu la vie dans la Méditerranée centrale en 2023. C'était 1417 en 2022. Donc, voilà, c'est évident, et nous, à l'OIM, on le dit depuis longtemps, qu'en fait, le système de patrouillage en mer, de sauvetage, n'est pas suffisant. Et dans ces cas-là, il y avait 180 personnes à bord, donc c'était un bateau, un navire assez grand. Mais en fait, ils sont arrivés jusqu'à la côte d'Italie, à 150 mètres de la côte.
Un très lourd bilan, après qu'une loi italienne a été votée. Cette loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois. Comment est-ce que vous évaluez ce texte?
Si on voit vraiment la loi italienne, en fait, on n'a pas clairement et directement écrit qu'on ne peut pas sauver des vies et donc sauver des vies si on a déjà fait un sauvetage. Dans le texte de la loi, on a écrit que les ONG qui ont secouru des migrants doivent sans retard aller rejoindre le port qui a été indiqué par le gouvernement. Sans retard. Sans retard ne veut pas dire qu'il y a l'obligation de ne pas sauver d'autres migrants. Donc, c'est un peu faible, cette loi laisse de l'espace à l'interprétation. Bien entendu, vous savez que le droit international de la mer oblige les bateaux à sauver les personnes qui risquent la vie dans la mer. Donc, s'il y a un bateau qui a des difficultés, il doit être secouru, c'est la loi. Donc, dans cette loi, on en a parlé beaucoup dans les journaux, même les hommes politiques italiens, les ministres, ont dit qu'il y a cette obligation de ne pas sauver d'autres personnes qui n'est pas, en fait, a été créée, qui n'a pas été écrite sur la loi italienne. Donc, ça, c'est très intéressant. Si on voit la loi, il n'y a pas un veto de sauver d'autres migrants après avoir fait un premier secours. Donc, il faut voir ce qui va s'y passer, mais on sait très bien que MSF, par exemple, ils ont effectué plusieurs sauvetages, mais en fait, ils ont pu le faire, même après la loi. Donc, il faut voir maintenant, dans le futur, ce qui va se passer.
Concernant le regard porté sur les organisations non gouvernementales qui sauvent les candidats à l'exil, on peut penser notamment à l'organisation SOS Méditerranée. Est-ce qu'il faudrait changer de regard sur le travail, la mission de ces organisations et rappeler que ces organisations sauvent des vies? Et vous l'avez souligné, c'est une obligation en mer.
Nous, on a toujours eu un regard positif sur le travail des ONG, des SOS Méditerranée, des MSF, Ocean Viking et tous les bateaux qui travaillent dans la Méditerranée, car on a besoin des bateaux de sauvetage. Après 2016, il y a eu un vide, en fait, dans les systèmes de patrouillage institutionnels italiens, européens et dans les ONG. ont commencé à travailler à cause de ce vide. Donc, on est convaincu que c'est très important que ce soit l'État, que les États soient les sujets qui puissent travailler dans les sauvetages, secours au sauvetage dans le Méditerranée. Mais s'il n'y a pas des institutions, donc au moins les ONG, bon, ils font un travail qui est nécessaire. On a parlé très souvent du pull factor, facteur d'attraction des ONG. Bon, avec les données que nous, comme OIM, même des autres instituts de recherche, on a recueilli, on a bien vu qu'il n'y a pas un facteur d'attraction, soit en présence des ONG, soit en absence des ONG, et les départs continuent au même niveau. Donc, il n'y a pas vraiment une corrélation. La vérité, c'est que les personnes de départ de leur pays d'origine ou de pays d'attraction, comme la Libye, car ils sont poussés par le manque de respect des droits humains, dans les cas de la Libye, la violation des droits humains, donc les personnes s'échappent de la Libye, même les personnes qui ne sont pas libyens, surtout les personnes qui ne sont pas libyens. Et donc, oui, c'est très important de sauver les vies dans la Méditerranée. La priorité doit rester de sauver les vies. Après, on peut parler d'autres solutions politiques, pratiques, et même théoriques, je ne sais pas, mais avant tout, parler de la, surtout prioriser le sauvetage en mer. Après, il faut ouvrir des voies légales d'immigration régulière. Il faut résoudre les crises qui sont derrière la décision des personnes de partir, de laisser leur pays d'origine, soit à cause des guerres, des persécutions, soit à cause de la pauvreté, soit à cause de changements climatiques. Il faut travailler sur ça, bien sûr, mais avant tout, il faut sauver les vies dans la mer.
Justement, concernant la politique européenne, la présidente de la Commission européenne a appelé à avancer sur la réforme du droit d'asile au sein de l'Union européenne. C'est aussi un texte que vous attendez.
Oui, il faut bien sûr renforcer les droits d'asile. La Convention de Genève, il faut dire, est très claire, mais il faut faire attention. Quand on parle de personnes qui s'enfuient, il y a la Convention de Genève qui protège des profils très clairs. Mais les personnes qui arrivent en Europe maintenant, il y a soit les personnes qui s'échappent de leur pays d'origine, des guerres, des persécutions, etc. Donc, ils peuvent être protégés et en fait devenir réfugiés. Mais il y a aussi des personnes, comme dans les cas de la Libye, il y a des personnes qui sont parties de leur pays d'Afrique pour des raisons économiques. Et donc, ils ne sont pas vraiment un profil de réfugiés. Mais quand ils arrivent en Libye, ils deviennent victimes des droits humains, de tortures, de violations, d'abus. Donc, ils deviennent des migrants vulnérables. Donc, ils s'échappent de la Libye, ils sont des sujets vulnérables. Donc, souvent, on les appelle des migrants économiques car ils ne s'enfuient pas de leur pays d'origine. Mais attention, ils s'enfuient d'un pays d'étranger où ils sont devenus des victimes des violations des droits humains. Ce sont des violations qui sont protégées par des traités internationaux qui ne sont pas la Convention de Genève, mais que ce sont des conventions internationales, traités internationaux qui ont été signés par beaucoup d'États européens, y compris l'Italie. Et donc, ils ont besoin d'être protégés. Mais souvent, en Europe, on fait la différence, on va accueillir réfugiés, les autres non. Attention, il y a aussi des profils vulnérables qui ne sont pas réfugiés, qui n'ont pas droit à l'asile, mais qui ont droit à une protection selon d'autres traités internationaux.
Et ça, c'est important, bien entendu, de le souligner face à une opinion qui peut être réfractaire à ce type de discours aujourd'hui.
Oui, oui, absolument. Il faut dire une autre chose. Quand on parle d'immigration en Europe, on a un regard un peu trop eurocentrique. Il faut rappeler que les 80% des flux migratoires en Afrique restent en Afrique. La même chose pour les Moyen-Orient. Donc, la plupart des migrants, des réfugiés, les gens qui s'échappent de leur pays restent dans leur continent. En Europe, il y a qu'un petit chiffre de personnes qui arrivent, qui cherchent à arriver dans notre continent. Et donc, on est un continent avec 400 millions de personnes, même plus, 450 millions de personnes. Et donc, c'est très grand, c'est très riche. Donc, 100 000 personnes qui sont arrivées, par exemple, l'année dernière en Italie par la mer, bon, ils ne sont pas en émergence, ce n'est pas une émergence en termes de chiffres, c'est une émergence humanitaire. Donc, en Europe, on pense toujours que toutes les personnes veulent arriver en Europe, mais ce n'est pas le cas. La majorité des personnes restent dans le continent. Donc, il faut même changer les regards et être un peu moins eurocentrique face au phénomène de l'immigration.
Flavio Di Giacomo, porte-parole en Italie de l'Organisation internationale pour les migrations. Un incendie dans un campement de réfugiés syriens a fait deux morts au Liban. Une mère et son fils sont décédés dans le village frontalier de Hersal, dans la vallée de la Beka. La Banque mondiale estime le coût des dégâts provoqués par le séisme qui a frappé la Turquie le 6 février à 34 milliards de dollars. Cela représente 4% du produit intérieur brut en 2021. Cette estimation ne prend pas en compte les coûts de reconstruction ni les conséquences sur la croissance turque à venir. Ces séismes ont fait plus de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Il est accusé d'avoir orchestré plusieurs attaques terroristes en Afghanistan. Un haut responsable de la branche régionale de Daesh a été tué dimanche à Kaboul. En janvier, un attentat suicide près du ministère des Affaires étrangères dans la capitale afghane, revendiqué par cette branche, avait fait au moins 10 morts et 53 blessés. Le président français a appelé à bâtir un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. Il a prononcé un discours sur sa stratégie en Afrique. Emmanuel Macron veut s'inscrire dans une volonté de rupture engagée en 2017. Un discours prononcé en amont d'une tournée en Afrique centrale du 1er au 5 mars au Gabon, en Angola et en République démocratique du Congo. Emmanuel Macron a déclaré qu'il continuerait à avancer pour renforcer la relation de la France avec l'Algérie comme avec le Maroc, au-delà, dit-il, des polémiques. Le président algérien a accordé la nationalité algérienne à l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Il a été nommé à ce poste en décembre 2021. L'archevêque d'Alger a exprimé sa grande joie et sa gratitude après cette décision d'Abdelmadjid Tebboune. Il évoque un signe fort pour l'Église qui, dit-il, se vit pleinement citoyenne. La France condamne fermement l'attaque qui a coûté la vie à deux Israéliens le 26 février. Les violences contre les civils palestiniens sont inacceptables. Voilà la réaction de Paris qui indique suivre avec la plus grande préoccupation les violences en Cisjordanie. La ville palestinienne de Huwara, en Cisjordanie occupée, a été attaquée dimanche soir par des dizaines de colons israéliens après la mort de deux d'entre eux par des tirs palestiniens. Un Palestinien a été tué par balle et une centaine d'autres ont été blessés lors de cette expédition. Entretien avec Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine.
On voit que cette escalade de la violence s'inscrit dans une dynamique au long terme. On voit ce qui se passe en Palestine occupée. On a noté une augmentation des violences des colons très importante ces dernières années. Les colons peuvent attaquer des localités palestiniennes en toute impunité, avec parfois même l'armée israélienne qui va les assister, les protéger, etc. On peut voir très couramment, en Cisjordanie notamment, des colons israéliens armés d'armes de guerre, de fusils automatiques, de fusils d'assaut, etc., qui vont être présents en Cisjordanie, dans les colonies, etc. Et dans le contexte du nouveau gouvernement israélien, qui est le gouvernement le plus à droite de son histoire, dont font partie des partis suprémacistes juifs très liés aux colons, c'est malheureusement pas étonnant de voir ce déchaînement de violence de la part des colons israéliens qui peuvent, à raison, se dire qu'ils peuvent agir en totale impunité sans crainte de quelques répercussions que ce soit.
Même si le Premier ministre israélien a appelé au calme dans une vidéo. Je vous demande, même si le sang est encore chaud et les esprits échauffés, de ne pas faire justice vous-même, mais de laisser les forces de sécurité accomplir leur mission, selon ces mots.
Oui, tout à fait, cette déclaration. Mais on voit que dans les faits, rien n'est réalisé pour contenir les colons. Il n'y a qu'à voir la très importante présence militaire israélienne en Cisjordanie pour se dire que voilà, si l'armée israélienne avait décidé de ne pas laisser les colons attaquer la localité de Huwara, elle aurait totalement pu faire ça. Si l'armée israélienne avait décidé d'interpeller les colons, elle aurait totalement pu. Mais dans les faits, c'est pas du tout dans les usages. On note qu'il y a une proximité très très forte désormais, même entre les forces militaires et les responsables des colonies en Cisjordanie. Donc nous, au niveau de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, on appelle la France à avoir une réponse ferme pour faire pression sur les autorités israéliennes afin que la colonisation cesse, parce que c'est la colonisation, un crime de guerre en soi, qui est responsable de cette augmentation des violences.
Quand la France a appelé ce lundi le gouvernement israélien au titre de sa responsabilité de puissance occupante à protéger les civils palestiniens et poursuivre les auteurs des violences commises, ce n'est pas suffisant pour vous?
Alors malheureusement, ces déclarations, même si voilà, elles vont dans le bon sens, il faut poursuivre les auteurs des violences, elles sont pas suffisantes. On voit que malgré les très nombreuses déclarations condamnant la colonisation, appelant à protéger les civils palestiniens, il n'y a aucune action de la part du gouvernement israélien. Ce qui est nécessaire, c'est de faire pression directement sur les autorités israéliennes. Une pression en faisant une différenciation claire dans la politique étrangère française entre le territoire israélien et les colonies israéliennes qui sont toutes illégales au regard du droit international. Il faudrait aussi d'ailleurs faire un embargo sur le commerce avec le commerce des armes avec les autorités israéliennes.
Est-ce que vous pouvez nous faire part de l'évolution de l'ampleur de la colonisation ces derniers mois en Cisjordanie?
Aujourd'hui, on est à environ 600 000 colons pour 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie. Les colons sont répartis pour la plupart dans des grandes colonies proches de Jérusalem. Ensuite, ce qu'on voit au quotidien, c'est que même dans les zones où les zones B, qui sont normalement sous autorité militaire israélienne, mais l'autorité civile palestinienne, il y a de plus en plus d'incursions de l'armée israélienne, d'incursions de colons israéliens. C'est une situation qui empire chaque jour, parce que Israël et les autorités israéliennes peuvent agir en toute impunité et continuer leur politique de colonisation sans être inquiété le moins du monde.
Pierre Motin, responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. La réforme des retraites est arrivée ce mardi au Sénat pour un premier examen en commission. La majorité de droite est favorable à un report de l'âge de départ à 64 ans, mais elle compte peser sur la réforme en améliorant les pensions des femmes ou en encourageant l'emploi des seniors. Après ce passage en commission, les sénateurs se retrouveront jeudi prochain pour le coup d'envoi des débats dans l'hémicycle. Noël Le Graët démissionne de la présidence de la Fédération française de football. Il était en retrait depuis le 11 janvier dernier. Une démission sur fond d'accusations de harcèlement, de dérapages verbaux et de missions d'audit accablantes diligentées par le ministère des Sports. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 19h et 23h pluriel avec Louis Alliot, maire de Perpignan, conseiller départemental des Pyrénées-Orientales, premier vice-président du Rassemblement National, émission présenté par Loïc Barrière. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.